Vous êtes toujours sur Remue Ménage 93.8 et vous pouvez nous appeler, bien sûr, si vous-même pratiquez ou aimeriez pratiquer un métier qui jusque-là était traditionnellement réservé aux garçons, au 50 40 51 41 023 depuis la Suisse. Alors après le témoignage de Catherine, qui, il faut l'avouer heureusement, ne se passe pas toujours comme ça. Hein. Parfois, il y a des femmes qui ont réussi à faire ce qu'elles avaient envie et jusqu'au bout. Mais il faut le reconnaître, avec chaque fois beaucoup de difficultés. Et là, je crois qu'il ne faut pas le nier, même s'il y a les superwomen qui aujourd'hui prétendent qu'elles arrivent tout faire, manager, femme, amante, etc. Il faut quand même reconnaître que quoi qu'on fasse, si on prétend entrer dans une profession qui jusque-là était réservée aux garçons, on a toujours des difficultés. Alors, je vous ai réuni maintenant trois témoignages. Le premier est une rencontre très, très particulière. Lorsque j'avais commencé à penser à ce dossier, on m'a téléphoné pour me dire « Écoute, j'ai une femme fantastique pour toi, j'ai une compagnonne ». Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une compagnonne. Compagnonne, c'est une femme, enfin, c'est normalement une corporation qui réunit des gens d'un même métier et surtout les métiers du bâtiment. Et Uli, qui est allemande, venait directement depuis l'Allemagne pour la Suisse dans son voyage vers la France et m'a raconté comment était-ce possible qu'une femme entre dans une de ces corporations.
Vor 8 Jahren. Und sie sind immer von einer Gruppe zur anderen gereist und haben angeklopft und gefragt, ob sie mitreisen können.
Alors les femmes, elles ont pu entrer, bien sûr, avec beaucoup de difficultés dans les corporations. Parce que dans les anciennes corporations qui datent du XIVe siècle, XVe siècle, les femmes, bien sûr, étaient interdites. Et il y a eu des difficultés supplémentaires. On interdisait aussi, par exemple, le travail politique. Et il s'est trouvé qu'en Allemagne, de plus en plus de jeunes hommes ont refusé ces deux conditions. Ont refusé de ne pas pouvoir avoir un certain travail politique. Et ont refusé que les femmes ne soient pas acceptées. Alors ils ont quitté les corporations traditionnelles et ont fondé leur propre corporation en 1980. Et cette nouvelle corporation était enfin mixte. Que faut-il faire pour devenir membre d'une corporation comme celle-ci? Eh bien, il faut être entièrement libre. Et qu'est-ce que ça veut dire être libre? Il faut ne pas être marié, il ne faut pas avoir de casier judiciaire, par exemple. Et quelqu'un doit nous emmener dans la corporation, raconter pourquoi on veut entrer. Au bout de 6 mois, après avoir commencé déjà à voyager, puisque le voyage est l'essence même de la formation professionnelle du compagnon, eh bien, on devient membre. Lorsque 2 membres avec qui on a voyagé ont raconté l'expérience qu'on a eue avec eux. Voyager, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire passer d'un village à un autre, d'une ville à une autre, d'un pays à un autre, et de se trouver du travail pour approfondir son expérience professionnelle. Alors dans les anciennes corporations, ils ont toute une série de points de repère, de points de rencontre, parce qu'ils ont de très vieux maîtres depuis fort longtemps, ils ont des restaurants, des chambres où ils se rencontrent. Hélas, pour la nouvelle corporation dont fait partie Uli, ils n'ont encore que 3 maîtres, ils n'ont encore que très peu de lieux de rencontre, et ils ont souvent beaucoup de difficultés à se trouver eux-mêmes du travail et des logements au cours de leur voyage. Comment voyagent-ils? Eh bien, à pied essentiellement, parfois ils ont le droit de faire de l'autostop. Ils trouvent du travail pour quelques jours, pour quelques semaines, mais en tout cas, ils ne doivent pas rester plus longtemps que 2 mois dans le même lieu. Alors j'ai demandé à Uli si, comme femme, ça n'avait pas été un problème de participer à cette corporation. Alors dans son travail, elle m'a dit qu'elle n'avait pas de problème aujourd'hui, mais que par contre, lors de son apprentissage, cela avait été vraiment le moment le plus terrible de sa vie. Elle n'avait pas vraiment eu de difficulté à commencer. En fait, ses parents n'avaient pas envie qu'elle commence cette formation de menuisière. Alors, elle a commencé par 2 ans d'école de formation sur le métal. Elle voulait construire des appareils de photo. Mais malheureusement, elle n'a pas trouvé de place de travail après son école. Alors, elle a cherché à nouveau une place de menuisière, qu'elle a trouvée comme apprentie. Mais là, c'est l'enfer qui continue. Elle avait 2 chefs épouvantables, 3 collègues apprentis avec elle. On leur faisait faire des heures supplémentaires sans arrêt. Ils devaient avoir leur propre voiture pour aller sur les chantiers, etc. Tout le monde était très mécontent. Mais tout le monde se taisait. Parce qu'ils avaient peur de perdre leur place de travail. Uli, elle, s'est décidée à causer, parce qu'elle ne pouvait pas accepter ces conditions. Alors finalement, les 3 chefs ont accepté qu'elle ait de meilleures conditions de travail. Mais alors, c'est les 2 autres compagnons apprentis qui se sont dressés contre elle, parce qu'ils étaient jaloux. Eux, n'ayant rien dit, continuaient à vivre ces conditions d'exploitation dures. Pendant ces 3 ans, elle a finalement réussi à porter, à faire les tâches lourdes que tout le monde faisait, comme tout le monde. Bien sûr, au début, elle avait un peu de peine, mais avec la pratique, tout est venu très facilement. Mais il faut reconnaître que, hélas, sa formation ne fut pas très complète pendant son apprentissage, car de nombreuses fois, on ne lui faisait pas faire ce que tout le monde faisait. Et ce qui a fait que plus tard, elle a eu un peu de peine à trouver du travail parce qu'elle avait l'impression que chaque fois, elle devait recommencer à apprendre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un compagnon doit voyager pour forger son expérience professionnelle. Alors pour une femme, est-ce que ce n'est pas difficile de devoir voyager? Ouli voyage toujours seule et elle m'a dit que ses difficultés venaient surtout pour se trouver des lieux où dormir, parce que c'est là qu'on s'affronte à la rencontre avec les hommes qui proposent souvent de leur donner leur clé pour donner la clé pour aller dormir chez eux, mais on peut le deviner, avec de très mauvaises intentions. En ce qui concerne le travail, elle n'a jamais eu trop de peine à trouver du travail. Elle s'est spécialisée dans la restauration des meubles, entre autres des meubles baroques. Et grâce à cette spécialisation, elle a entre autres rencontré une femme menuisière ébéniste à Davos, en Suisse. Et ce séjour-là lui a beaucoup plu. Elle adore travailler avec cette femme. Elle est revenue plusieurs fois. Elle y retourne chaque année, passer quelques mois, les 2 mois auxquels elle a droit. Et elle m'a dit que vraiment, elle trouvait très très différent de travailler avec une femme, parce qu'entre autres, on n'a pas toujours besoin de prouver ce qu'on sait faire lorsqu'on travaille avec une femme. Elle voyage déjà depuis 3 ans. Elle va encore voyager pendant 3 ans, elle pense. Elle adore voyager ainsi, parce que de toute façon, c'est beaucoup mieux que de voyager comme une touriste. Elle est déjà allée en Hongrie, au Canada, en France, en Italie. Le jour où elle décidera de s'arrêter de voyager, eh bien, ça ne signifie pas pour elle la fin de son travail dans la corporation. Bien au contraire, la corporation l'aidera à devenir maître si elle le désire. Et même, elle lui prêtera de l'argent pour ouvrir une entreprise à elle ou à plusieurs. Catherine, je crois que cette histoire de Ouli, compagnonne dans une corporation de la menuiserie, t'a rappelé quelque chose aussi par rapport à ta propre
expérience. Oui, c'est un témoignage très, très passionnant et je dois dire qu'il soulève un point essentiel dans la difficulté des femmes à avoir un métier d'homme, c'est toujours faire plus, toujours pour les mêmes études, pour les mêmes examens, devoir prouver. Et ça, c'est un aspect fondamental quand on prend une profession qui est exercée par la gente masculine.
Toi-même, tu l'as vécu.
Oui, tout à fait.
Alors à ce propos, nous allons maintenant entendre ce que nous dit Anne-Caroline Pronat, qui est devenue chef d'orchestre. Et oui, on passe un peu du coq à l'âne au niveau des professions, mais je crois que c'était l'idée de voir dans plusieurs domaines ce qu'il en était. Alors je lui ai demandé, évidemment, tout simplement pour commencer, comment devient-on chef d'orchestre ?
Moi, je n'avais pas du tout pensé à être chef d'orchestre en étant enfant. Au départ, je faisais du piano et je n'ai jamais pensé d'ailleurs en faire mon métier. Je voulais simplement jouer pour le plaisir, jusqu'au jour où j'ai été confrontée à une situation d'abandonner la musique et je me suis rendu compte que c'était pas possible et qu'il fallait que je joue la musique. Bon, d'abord j'ai fait du piano, ensuite je me suis rendu compte, donc à côté du piano j'ai fait toutes les manières théoriques, ensuite je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse de la musique et j'ai choisi de jouer de l'orgue. Parce qu'entre-temps, en fait, je m'étais déjà intéressée à l'orchestre et je m'étais rendu compte que pour être chef d'orchestre, il fallait d'abord soi-même très très bien jouer de quelque chose. Et j'ai choisi l'orgue, je pense, parce que c'était un peu une transposition de l'orchestre. C'est un orchestre à soi tout seul. Et après, comme j'ai fait du chant aussi. Et après, j'ai fait chanter des choristes, parce que je trouvais qu'être organiste, c'était pas suffisant, c'était trop renfermé sur soi-même. Donc j'ai fait chanter des chœurs. Et après, par l'intermédiaire des chœurs, je me suis retrouvée confrontée au problème de l'orchestre, parce que j'ai voulu jouer des œuvres avec chœur et orchestre. Et à ce moment-là, je me suis dit, pour diriger un chœur avec un orchestre, il faut absolument connaître la technique de chef d'orchestre, sinon on aurait toujours des problèmes avec les musiciens professionnels. C'est comme ça que je suis revenue à l'orchestre après toutes ces années de formation, d'expérimentation propre par un instrument, après avoir donné pas mal de récitals d'orgue.
Pendant toute cette réflexion et cette pratique qui vous a amené aux classes de direction, c'est comme ça que ça s'appelle, la direction d'orchestre, est-ce que vous est venu à l'esprit que vous alliez entreprendre une formation qui normalement a été réservée exclusivement jusqu'à ce jour aux hommes?
C'est une question intéressante. Parce que je pense qu'au moment où une femme pense être chef d'orchestre, ça veut dire qu'elle oublie complètement qu'elle est une femme. Donc c'est un problème. Ça veut dire qu'en soi, elle sait qu'elle est une femme, mais d'un autre côté, elle pense pas du tout que ça peut être un inconvénient. Et je pense qu'une femme qui veut être chef d'orchestre, c'est pas elle qui remarque qu'elle est une femme, c'est quelqu'un qui lui dit « Mais est-ce que tu peux faire ça puisque tu es une femme? Est-ce que tu es sûre que tu peux ?» Et puis à ce moment-là, soit elle est gonflée et puis elle se dit que ce qu'elle veut faire, c'est ce qu'il y a de plus important et il faut qu'elle fonce sur son idée. Soit elle est un peu réaliste et à ce moment-là, elle se rend compte que c'est pas bien, c'est presque pas la peine, quoi.
Est-ce que bon, l'attitude des gens qui vous ont dit est-ce que tu crois que tu vas y arriver, tu y as pensé, etc. Enfin, vous avez rencontré ça autour de vous le jour où vous avez décidé, vous avez eu envie de devenir chef d'orchestre.
Oui.
Les gens autour de vous ont réagi bizarrement, vous ont essayé de vous décourager,
oui, tout à fait,
etc.
Tout à fait.
Quel type de remarques on vous faisait?
Tu vas te faire chahuter, tu vas pas te faire respecter, c'est pas un métier de femme, il y en a pas, puis ça marchera pas. Et je crois que si musicalement on sent, et si musicalement et physiquement on sent qu'on se sentirait bien à cet endroit-là, on est poussé très fort de l'intérieur pour le faire et on a un défi à relever. Et c'est plus fort que les remarques en fait. Mais il y a une chose qui est de se préparer, et puis il y a une chose qui est une autre, d'entrer dans la profession au point de vue. Au point de vue social, au point de vue du métier lui-même, quoi, d'en vivre et d'avoir des engagements. C'est une des choses qui fait le mieux accepter les femmes comme chefs, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de femmes dans un orchestre.
Avec n'importe quel instrument, il y a aussi des distinctions suivant les instruments. Par exemple, les instruments avant, est-ce que
oui,
les femmes...
Il y a eu plus tard des femmes dans les instruments avant, mais maintenant, il y a des femmes cornistes, des femmes... Je ne sais pas si j'ai vu des femmes trombonistes, mais des trompettes, corps, oui.
Au moment où vous êtes retrouvée la première fois devant un orchestre, est-ce que vous avez eu la sensation que les musiciens vous regardaient avec un drôle d'œil et vous ont écouté, ont été moins attentifs, différemment, ont été moins attentifs à vos consignes que si vous aviez été un homme?
Je pense qu'ils ont été tout aussi attentifs, mais je crois que celle qui était le plus négative à ce moment-là, c'était moi, parce que j'avais très peur de ne pas être acceptée. Et en fait, s'ils me regardaient avec un sale œil, comme tous les musiciens regardent tous les chefs, ça ne voulait pas dire qu'ils étaient négatifs, en fait. Et c'est moi qui craignais tellement qu'ils soient négatifs qu'au début, j'ai eu de la peine. Mais en fait, après les premières expériences musicales faites, c'est-à-dire une fois qu'on est vraiment joué et puis qu'on a vu que la musique venait très bien, on oublie après. Mais bon, il reste toujours un problème de timidité, quoi, qui est à moitié la timidité personnelle, qu'on soit homme ou femme, et puis la timidité parce qu'on sait qu'on a un handicap.
Ça veut dire que, par exemple, vous aviez la sensation que vous deviez faire vos preuves plus qu'un homme, par exemple.
Exactement. Oui, je pense qu'une femme, il faut qu'elle soit mieux pour qu'elle soit acceptée. Il faut pas qu'elle tende la perche du reproche.
Si vous étiez sur une liste d'offres d'emploi pour la direction d'un orchestre à revoir, vous estimez que vous auriez moins de chance qu'un homme?
C'est pas évident. Moi, je pense que si une femme est très bonne, si une femme est géniale, par exemple, supposons, elle a toutes les chances. Moi,
il faut qu'elle soit géniale.
Oui, il faut qu'elle soit géniale, absolument. Sinon, elle a pas de chance. Elle a moins de chance, ça c'est sûr. Si elle est géniale, elle peut très bien passer avant. Mais si... Je pense qu'à qualité égale, on va prendre un homme. Mais bon, moi, en plus, je suis organiste. À l'origine, je suis organiste et en plus, je viens d'avoir une petite fille. C'est très intéressant comme situation parce que j'en suis vraiment à une période où je dois réaliser qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux choisir et qu'est-ce que je peux matériellement dans la réalité faire.
Donc, ça, vous avez l'impression que c'est un obstacle souvent dans le choix des femmes qui veulent accéder à des professions normalement réservées aux hommes. Leur fait qu'elles ont une vie qui est à la fois leur vie professionnelle et leur vie de femme, par exemple de mère,
oui.
Puisque vous dites ça.
Oui, oui, c'est sûr. Il y a un moment donné qui... Par exemple, si on vient d'avoir un enfant, il me semble que c'est tellement important sur le moment que le reste perd de l'importance momentanément, je pense. Mais la difficulté, c'est de ne pas abandonner, parce que le fait d'être mère, ça dure un certain nombre d'années, d'accord, mais après, il faut absolument se retrouver sur son chemin. Et j'essaye de... Bon, en ce moment, la direction, elle est plutôt dans ma tête, pour la direction d'orchestre. Parce que la dernière fois que j'ai dirigé, c'était au mois de juin dernier. Bon, j'ai eu une petite fille à 5 mois. Et la prochaine fois que je dirigerai un orchestre, mis à part pour des répétitions, des lectures au conservatoire, ce qui arrivera cette année, la prochaine fois que je dirigerai un orchestre, ce sera peut-être dans pas avant 6 mois, quelque chose comme ça. Donc je suis dans une période très spéciale. Mais
problématique je pense que ne poseront jamais les hommes, vous avez la non, sensation. Vos collègues d'études qui étaient en classe de direction comme vous...
Ah eux, ils n'ont plus qu'à foncer, ils n'ont pas le problème de mettre au monde quelqu'un.
Vous mettre au monde, c'est une chose, c'est vrai que c'est le rôle des femmes. Mais l'éducation d'un enfant, même petit, peut être partagée par les hommes. Donc les hommes pourraient se soucier aussi et poser les mêmes questions.
Oh en fait, non, moi je pense pas. Moi c'est curieux, j'ai envie de faire un métier d'homme, mais je ne suis pas féministe. C'est-à-dire que je sais très bien que si je fais un enfant, en tout cas, maintenant j'ai ma petite fille à 5 mois et je l'allaite encore, donc je ne l'ai même pas sevrée. C'est ce qui est dur maintenant, en fait, c'est d'abandonner la petite fille pour être chef d'orchestre. Mais enfin, chef d'orchestre, le problème, c'est... Le problème de la femme devient critique pour un chef d'orchestre, quand même, pour certaines œuvres, où il y a un problème de puissance, de poids et de force pendant un grand moment. Et là, je ne sais pas si une femme peut remplir ce rôle, vraiment. Donc en fait, la restriction pratique, elle serait là. Elle serait dans la force pour certaines œuvres. Et puis, dans le fait qu'une femme fait un enfant, puis c'est tout. Et je pense qu'en plus, si une femme veut se consacrer... C'est terrible, parce qu'une femme, si elle veut être complètement accomplie, c'est bien qu'elle ait eu un enfant, parce que ça l'a grandi intérieurement, ça l'a fait mieux sentir et comprendre la vie, ça lui apporte beaucoup. Et puis à la fois, c'est là qu'elle devient prête pour accomplir des grandes choses dans la vie pratique. Alors c'est terrible, ça. Il y a beaucoup de métiers où c'est possible. L'orchestre, je crois que c'est... Il faut trop y penser tout le temps, il faut trop s'engager. Mais ça doit être possible quand même.
Et oui, ça doit être possible quand même. Effectivement, Anne-Caroline prétend qu'elle n'est pas féministe, mais nous, on n'est pas tout à fait d'accord avec elle. Parce qu'en tout cas, on pense qu'elle a effectivement touché au problème très important qui est celui de l'apparente contradiction entre la vie professionnelle et le rôle de mère. D'ailleurs, c'est très souvent un argument des patrons qui ne veulent pas engager des filles en disant « Mais pensez donc, bientôt elles auront des enfants, qu'est-ce qu'on en fera ?» Hein, évidemment, ils devraient accepter que pendant quelque temps, la femme n'est pas là, mais qu'est-ce que c'est que ces quelque temps ? Mais c'est aussi vrai que la femme doit, elle, régler ce problème, cette question. Et se dire que d'avoir des enfants, ça n'est pas un obstacle à une vie professionnelle, ni même à une carrière. Parce qu'en l'occurrence, quand on parle chef d'orchestre, c'est peut-être une situation professionnelle un peu particulière, comme celle d'artistes ou de personnages extrêmement publics. Finalement, est-ce que souvent, nous ne nous donnons pas des prétextes pour ne pas tenter l'histoire, parce qu'on sait que ça signifiera de beaucoup se battre ? Mais finalement, de toute manière, on doit se battre. Alors, dans la mesure où on doit se battre, pourquoi ne pas plutôt poser le problème du partage de la responsabilité dans l'éducation des enfants par le couple, par l'homme et la femme, plutôt que de régler la question en soit essayant d'affronter tout soi-même, soit en renonçant à vivre sa carrière professionnelle.
Oui, c'est très juste ce que tu dis, parce que je pense à deux personnes que je connais, une qui est journaliste et une qui est artiste peintre, et qui ont énormément de difficultés à devenir mère, avoir leurs enfants et d'un autre côté exercer leur métier. Se couper d'un circuit, artiste peintre encore c'est possible, mais journaliste, se couper d'un circuit, c'est pas évident pour retrouver sa place quelques 3 ans, 4 ans après.
D'ailleurs, quand on avait fait notre débat avec les femmes radioactives, elles avaient aussi évoqué ce problème et que ça nécessitait une organisation toute particulière que les hommes n'affrontaient jamais. Alors maintenant, nous allons entendre Christine. Christine, elle pratique encore un autre métier, qui est celui de pâtissière confiseuse. Je ne sais pas si on peut mettre au féminin simplement comme ça, c'est vrai que c'est encore étrange. Il semble que dans ce type de métier, les possibilités de formation s'ouvrent de plus en plus.
disons, j'avais déjà un métier dans la restauration. Puis comme j'avais envie de changer, ben, j'ai essayé ça, puis c'est tout, puis voilà. J'ai vu une annonce, puis je suis allée voir le patron, disons, de la boîte, puis il m'a dit pourquoi pas, il n'a jamais eu de fille, il va essayer.
Donc lui, voilà. il n'était pas surpris de vous voir arriver faire une proposition d'apprentissage, quoi.
Si, il était un peu surpris, parce que bon, ben, il avait déjà beaucoup d'autres propositions, donc, et puis bon, ben, moi j'ai assisté un petit peu aussi, hein, c'est ça. Mm-hmm.
Lui, il vous a opposé quel type d'argument? Il hésitait, qu'est-ce qui vous a fait savoir?
Ben, disons, comme je suis venue me présenter, il a un peu hésité. Et puis après, j'ai discuté avec mon père est allé voir, puis après, ben, on a fait le contrat, puis c'était bon, quoi.
Ces hésitations, vous avez l'impression, elles étaient dues au fait que vous étiez une fille?
Oui, certainement.
Il vous a pas dit que c'était pour ça, ou bien?
Non, mais il me l'a fait un peu sentir, mm-hmm. parce qu'il aurait préféré prendre un garçon qu'une fille, quoi.
C'est bien passé, là, les rapports que vous aviez avec vos collègues de travail, ça s'est bien passé?
Oui, avec les collègues de travail, ça allait très bien, mais c'est avec le patron un peu plus tard, quoi.
C'est-à-dire?
Au début, quand on rentre dans une boîte, c'est toujours sympa, gentil, tout ce qu'on veut, et puis après, ben, un apprenti, normalement, c'est toujours le petit chenille après. Mmh. Alors voilà.
Vous avez eu avec lui des problèmes de ce genre-là?
Voilà, exactement. Oui, il y a eu des fois où on s'est pris de mèche. Mm-hmm. Bon, après, en deuxième année, donc. Hein, mm-hmm. En première année, c'est allé bien comme il faut. Jusqu'après que j'ai passé l'examen intermédiaire. Mm-hmm. Puis après, ça a commencé à faire un peu le chenille. En tout cas, le patron, il me laissait pas faire ce que je voulais. C'était une chose. Disons, le truc, par exemple, je fais une chose que j'ai jamais faite. Alors, tout le monde me dit, ouais, il faut que tu le fasses. Et puis après, le patron, il arrive, ouais, il ne faut pas la laisser faire, elle ne peut pas, elle n'est pas capable, et puis voilà.
Mm-hmm. Puis là, vous avez, à la sortie de votre apprentissage, vous avez trouvé facilement l'emploi où vous êtes maintenant?
Non, j'ai un peu cherché. J'ai eu, disons, bon, bah, je cherchais beaucoup aussi dans la suite, j'allais voir des places, je regardais aussi. Et puis bon, ben, bah, c'est mon père qui a trouvé, parce que moi, je l'avais pas vu. Mm-hmm. Je n'avais pas vu l'annonce. Il l'a trouvé, il m'a téléphoné le lundi après-midi. Je devais aller me présenter le lundi après-midi à 5 heures. Et puis voilà. Et puis bon, bah, là, le patron aussi, là aussi, il avait des offres aussi. Mm-hmm. Et puis bon, il m'a dit qu'il retéléphonerait. Puis bon, bah, j'étais toute contente quand il m'a téléphoné, puis mm-hmm. qu'il me prenait aussi.
Là, vous avez l'impression que vos difficultés de trouver un travail, elles étaient dues à quoi? Parce qu'il y avait beaucoup de concurrence, vous étiez nombreux à vous présenter pour un même poste, ou bien, c'est pas de nouveau, on vous faisait pas tellement confiance parce que vous étiez fille?
Ben, disons, un métier de garçon, c'est plus... pour un garçon, c'est beaucoup plus facile de trouver. Hein. Mm-hmm. Pour une fille, disons, c'est peut-être beaucoup plus compliqué parce qu'elle n'arrivera pas à faire ce qu'un garçon fera normalement. Ou alors apporter des sacs de farine de 50 kilos, par exemple.
Ça, vous auriez dû le faire. Vous devez le faire dans votre profession.
Non, pas spécialement. Mais bon, si je suis toute seule, qu'il n'y a personne qui me le prend, je suis obligée de le faire. Mm-hmm. Parce que, bon, ben, voilà.
Qu'est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas capable de faire en tant que fille dans ce métier?
Pas grand-chose, en tout cas. Bon, ben, j'ai appris le métier de pâtisserie-confiseur. Je pense que je suis quand même capable de tout faire. Hein.
Down and out, there was a place. What kind of food tears it apart, leaving me pain and sorrow? Losing it, wondering why. Where will I be tomorrow? Forever longing what we are. Time when we were down and out. There was a place when we were starving. Oh, we let the vow break. We let the heart ache in. We starving now. We starving. Tears it apart, leaving me pain and sorrow.
Oh, losing it now, how can I win? Where will I be tomorrow?
Was there a moment when I cut you down?
No.
C'était...